Demain, le Soudan du Sud va célébrer ses 10 ans d'indépendance, le plus jeune État du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du Soudan? Où est-ce qu'on en est avec le Soudan du Sud?
On est dans une situation qui reste extraordinairement précaire, avec une solution politique qui vient, dans les 3 dernières années, de faire des avancées, mais qui reste extrêmement fragile. Même si aujourd'hui Djouba, la capitale, est d'une ville un peu plus calme qu'elle n'a été depuis 2013, la tension reste perceptible et surtout en province, dans le Sud-Soudan, il y a de nombreux des affrontements qui ne sont pas des affrontements toujours très politiques, mais qui manifestent la présence de différents groupes armés qui restent non organisés, non structurés et non intégrés et contrôlés par l'État. Il y a un accord au sommet qui vaut ce qu'il vaut, il y a des institutions qui peinent à se mettre en place depuis 10 ans, et il y a une population qui quand même souffre beaucoup. La pauvreté a augmenté depuis l'indépendance, hein. On est passé de 50 à 80%, mais je crois que malgré tout, il faut dire que dans ce qu'on peut estimer de l'opinion publique sud-soudanaise, personne ne regrette l'indépendance, même si celle-ci, pour l'instant, a bien du mal à se traduire par une amélioration de la situation quotidienne de l'essentiel de la population.
Personne ne regrette l'indépendance. Toutefois, le pays reste miné par les conflits, tout ce que vous venez de dire, l'incertitude économique, la famine, l'instabilité sociopolitique, les guerres, la famine. Est-ce parce que l'indépendance de ce pays a été mal préparée que tout cela persiste?
Oui, évidemment, et en même temps, il faut bien dire que c'était quand même très compliqué. D'abord, l'étage de l'indépendance, notamment la construction d'un appareil d'État, beaucoup de gens, et notamment aux États-Unis, ont pensé qu'il s'agissait de la reconstruction. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait quand même des fondements, il y avait un appareil d'État qui avait fonctionné, même s'il avait été affaibli pendant la guerre. En fait, l'administration du Sud-Soudan a toujours été très problématique dans la période coloniale, donc britannique, après 1955, quand les troubles ont commencé à se manifester de façon beaucoup plus massive dans certaines zones. Et donc, si vous voulez, c'est pas un pays qui a toujours été en guerre, parce que le Sud-Soudan, c'est très grand, évidemment, mais c'est quand même une instabilité sécuritaire qui a beaucoup pesé, avec une absence totale de volonté de Khartoum d'aider à la construction d'un appareil d'État. Donc ça, c'était très difficile. La deuxième chose qui a été très difficile, c'est que le SPLA a été, sur la base d'une histoire du premier épisode de la guerre civile de 1955 à 1972, le SPLA a été fondamentalement une armée, un groupe militaire, avec une direction politique qui était réduite aux acquêts autour de son leader John Garang. Mais il n'y a pas eu de véritable politisation. Les membres de ce groupe armé faisaient la guerre, mais le projet politique et social de l'après-indépendance n'a jamais été préparé et n'était même pas toujours très clair dans l'esprit souvent de commandants locaux et évidemment des combattants. Donc évidemment, quand tout d'un coup il a fallu administrer des zones, mettre en place des politiques publiques, tout ça a semblé extrêmement difficile. La communauté internationale a fait beaucoup d'efforts, notamment les États-Unis. Mais d'un autre côté aussi, dépenser de l'argent, c'est une chose. Suivre de façon réaliste les problèmes, ne pas toujours être un partenaire, c'est pas toujours être un ami qui soutient, c'est aussi être un ami qui critique. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que la communauté internationale a failli entre la signature de ce qu'on appelle le Comprehensive Peace Agreement en janvier 2005 et l'indépendance du Sud-Soudan en juillet 2011.
Pourquoi ça s'est fait comme ça?
Pourquoi ça s'est fait comme ça? Alors, il y avait beaucoup de naïveté, hein, il faut le dire, du côté américain et du côté norvégien, beaucoup plus que du côté britannique, qui étaient les 3 pays qui étaient les plus impliqués. Mais il y a aussi eu le fait que pendant cette période-là, le Soudan était aussi en proie à une guerre extrêmement brutale au Darfour et que l'essentiel de l'attention internationale et de ces 3 pays a été pendant très longtemps monopolisé par le conflit au Darfour, ce qui veut dire qu'on suivait de beaucoup plus loin ce qui se passait au Sud-Soudan. Et puis peut-être dernier point, la philosophie de l'accord entre Khartoum et le SPLA, enfin Omar el-Béchir et le SPLA, c'est quand même un partage de territoire entre deux pouvoirs autoritaires et dans l'accord de paix qui a été conclu, bon, il y a très peu de place laissée à la société civile, il y a très peu de place laissée aux réparations des relations entre le SPLA et les communautés locales qui ont souvent souffert, évidemment beaucoup de Khartoum, mais aussi beaucoup du SPLA. Et donc, d'une certaine façon, on leur donnait le pouvoir sans en même temps construire les moyens d'une réconciliation nationale qui n'intéressait pas les dirigeants du SPLA, puisque tout d'un coup, eux, disant avoir sacrifié leur vie pendant plusieurs décennies dans la lutte, estimaient qu'ils devaient profiter de tous les avantages du pouvoir et notamment de la rente pétrolière.
Mais est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'il y a des chances que le Soudan du Sud devienne un pays normal?
Espérer, on peut toujours, mais peut-être qu'on doit toujours. C'est vrai que je crois beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Sud-Soudan estiment que la première génération, comme c'est d'ailleurs un peu le cas pour l'Érythrée, hein, sera une génération perdue, au sens où ces gens-là vont quand même souffrir encore beaucoup parce que les problèmes là qu'aujourd'hui on décrit entre Nuer et Dinka ou entre Riek Machar et Salva Kiir. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses, mais enfin, c'est la façon dont on décrit ces problèmes le plus souvent. Ça va malgré tout durer, même si aujourd'hui on est dans une phase, disons, un peu moins difficile qu'après 2013. Et évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas simplement construire un appareil d'État, un appareil administratif, c'est aussi faire rentrer dans la logique des acteurs armés le fait qu'il y a une population qui a des droits et que eux n'ont pas simplement, que eux, mouvements armés ou combattants, n'ont pas seulement des droits, ils ont aussi des devoirs. Et pour faire passer cette idée et la faire respecter, il faudra, je crois, encore pas mal d'années.
Et ces élections dont les partenaires du Soudan du Sud veulent la préparation, pensez-vous qu'elles pourraient changer la donne?
Comme toujours, on gagne du temps, c'est-à-dire qu'on va préparer une constitution pour aller aux élections qui sont maintenant prévues pour 2023. Alors, encore une fois, compte tenu de ce que j'ai dit, de la réalité sociale un peu, avoir une constitution ne me paraît pas la chose la plus essentielle et ça me paraît surtout être une façon à nouveau de dépenser beaucoup d'argent. Bon, c'est pas forcément inutile évidemment, mais je crois qu'il y a d'autres problèmes à régler, notamment les réconciliations entre les différents groupes armés et des communautés locales, hein, qui sont, c'est pas partout dans le pays, mais c'est quand même dans un certain nombre d'endroits où ces réconciliations permettraient à terme de faire baisser la tension. Bon, la communauté internationale se sent certainement plus à l'aise en finançant l'écriture d'une constitution alors que très peu de gens seront capables de la lire et encore moins de gens capables de la comprendre et sans doute parmi eux très peu disposés à la mettre en œuvre. Bon, mais soit, hein, si c'est ça le choix aujourd'hui des autorités de Djouba, eh ben, il faut aller dans cette direction-là. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas le juridisme qui sauvera le Sud-Soudan de l'hostilité, c'est la reconstruction d'un tissu social avec une dimension de réconciliation et de réparation extrêmement importante et sans doute à terme également le fait que les comptes en banque de tous ces grands responsables soient ramenés pour servir au développement du Sud-Soudan et pas simplement à leur enrichissement personnel et à l'envoi de leurs enfants dans les universités internationales.